Que Dieu soit béni au milieu de nous. Lorsqu'un prédicateur doit annoncer le conseil de Dieu, on peut prêcher pour prêcher, vous savez, meubler un moment. Mais le plus important, c'est de pouvoir s'adresser au cœur. Que l'Esprit de Dieu puisse mettre en lumière certaines choses et que par sa grâce, eh bien, nous puissions saisir, comprendre, avoir l'intelligence, et c'est le Saint-Esprit qui nous donne le renouvellement d'intelligence, la compréhension des choses d'en haut, des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et puis ensuite, eh bien, on a prié, on s'est tenu devant Dieu et on prépare. On met en place, on met un schéma, hein, voilà, des fois on sort complètement du schéma. Ça vient tout simplement eh bien, du Saint-Esprit au moment où nous prêchons et suivant les besoins qu'il y a dans l'auditoire. Dieu nous connaît. Et même si nous ne pensions pas venir ce matin, eh bien, Dieu nous connaît et il savait que nous serions là. Amen. Il y a des choses incompréhensibles, hein, c'est comme ça. Il y a une famille, là où nous étions avant, quand je me suis converti, ça m'a toujours marqué. Tous les dimanches matins, leur voiture ne démarrait pas. Pas une fois, pas deux, mais toute l'année. Donc les enfants descendaient vite au chemin pour arriver sur la route principale et faire signe aux chrétiens qui arrivaient et qui avaient la place dans leur voiture, eh bien, d'en prendre quelques-uns et comme ça, en deux, trois voitures, ils arrivaient à remplir et à se retrouver donc le dimanche matin à l'église. Amen. Alors ça, c'était pas qu'aléatoire. Il y avait un combat. Et il disait, Seigneur, nous, on y sera ce matin. On y sera. Et c'est comme ça. Vous voyez, c'est des combats, hein. Peut-être, je ne sais pas, moi, le lait a débordé ce matin. C'est bon, hein, je dis ça comme ça. Peut-être que tu as été contrarié parce que tu as eu une mauvaise parole. Je ne sais pas, hein, mais je dis des choses comme ça. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Eh bien, on efface tout ça. On fixe le regard vers le Seigneur. On fixe les regards vers le tout accompli de la croix. Et on se laisse porter par l'Esprit de Dieu. On a ouvert nos bouches, nos cœurs, on s'est élevé avec les chants, les cantiques. On a entendu Dieu nous parler au travers des dons spirituels. Et puis Dieu nous parle également par sa parole. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Nous ouvrons une piste en tant que prédicateur. Nous ouvrons une piste et puis c'est à vous après d'aller sur cette piste creusée. Pour trouver tous les trésors qu'il y a en route. Et des trésors, il y en a dans la parole de Dieu. Amen. Alors, on va ensemble commencer à ouvrir une piste. Allez, alors, est-ce que vous voulez le titre du thème? Peut-être que ça vous intéresse, je ne sais pas. Vous aimeriez avoir un petit peu le début, au moins pour savoir. Alors, si c'est moi, je vous le donne, et après vous en ferez ce que vous voudrez. Un homme selon le cœur de Dieu. Ça vous va? Vous aimeriez être un homme ou une femme, bien sûr, hein, selon le cœur de Dieu. Qui aimerait? Levez la main. Je ferai un appel à la fin, hein, pour voir si vous avez encore la main. Hein. Allez, en tout cas, Actes chapitre 13, verset 22, la fin du verset. Voilà, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alors, il n'est pas trop dans les habitudes de Dieu de faire des compliments aux hommes. Vous savez, on peut prendre la grosse tête pour voir, comme dit ma femme, ça va tes chevilles, elles ne gonflent pas trop. Eh oui, c'est comme ça. Mais c'est important de réaliser que Dieu, à des moments, eh bien, a pu, quelque part, classifier les hommes, justement, parce qu'il lui plaisait. Alors, pour quelques-uns d'entre eux, la Bible apporte quelques précisions. Il est dit d'Enoch, Hébreux chapitre 11, verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, et c'est là qu'on y vient, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Il était agréable à Dieu. Jacques chapitre 2, verset 23, nous dit d'Abraham, Abraham crut à Dieu, et cela le fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Il n'y a pas beaucoup dans la Bible, hein? Ah oui. Hébreux 3, verset 2, dit de Moïse ceci, Jésus a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc Moïse a été fidèle, il est taxé de fidèle. En tout cas, David, quant à lui, était un homme selon le cœur de Dieu. D'ailleurs, David est une des figures les plus attachantes de l'Ancien Testament. Bien sûr, il n'était pas parfait. Il n'était pas parfait. Un seul est parfait, ou a été parfait quand il était sur la terre, c'est Jésus. Amen. On peut faire des reproches à tous les hommes, même les plus élevés, même les plus pieux, je ne sais pas moi, les grands leaders. Il y a toujours eu quelque chose de mauvais dans leur vie, où on aurait pu faire des reproches et s'arrêter là. En tout cas, David, lui, il n'était pas parfait, ok, mais c'est une des figures les plus attachantes. Il y avait quelque chose de particulier chez lui. Alors, il va commettre une faute grave dont il va supporter les pénibles conséquences, mais David avait des qualités et des dispositions de cœur qui plaisaient à Dieu. Amen. Et ça, nous pouvons tous les acquérir. Tous les rechercher, ces dispositions de cœur. Ça, ça ne dépend pas de Dieu, ça ne dépend pas des circonstances, ça dépend de nous. Si je veux plaire à Dieu, il y a certaines démarches que je dois faire. Il y a une certaine approche des choses. Il y a une certaine manière de gérer les circonstances, même les plus difficiles, si je veux plaire à Dieu. Si je veux tout simplement que Dieu dise « c'est un homme selon mon cœur ». Alors, il connaîtra des épreuves de toutes sortes et bien sûr en grand nombre, mais jamais il ne va se départir d'une vie de confiance en Dieu. Il avait confiance dans le Seigneur. Il a été fidèle et il savait que Dieu serait fidèle. En certaines circonstances, David va montrer comme cela une noblesse de cœur et des qualités qui plaisaient à Dieu, bien sûr, et qui feront de lui un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Il agit de la bonne manière. Il aurait pu agir autrement, mais il agit de la bonne manière parce qu'il y avait en lui une crainte, la crainte de Dieu, la crainte de déplaire à Dieu, la crainte d'attrister le cœur de Dieu. Donc ce qu'il voulait, c'était que Dieu puisse se réjouir. Il ne le faisait pas pour les autres, mais il le faisait d'abord pour Dieu. Bien sûr, ça faisait du bien aux autres. Parce que, on va le voir, eh bien, il agit de la bonne manière. Un jour, alors que David était en fuite devant Saül, bien sûr, et qui cherchait à le faire mourir, à un moment donné, il a voulu le décapiter, il a voulu le percuter avec une lance. C'est Jonathan qui a pu l'aider à certains moments. Mais voilà qu'il cherchait à le faire mourir. Et là, David va montrer sa droiture, sa loyauté, son respect. Il est dans la caverne d'En-Gedi. Et vous adorez ce moment, ce temps particulier. Dans 1 Samuel, chapitre 24, verset 1 à 23. Alors que Saül était à sa merci, eh bien, David va couper un pan de son manteau. Hein? Il va aller doucement, hein, doucement, doucement, il va arriver jusqu'à lui. Saül se couvrait les pieds. Vous savez ce que ça voulait dire? Il est en train de faire ses besoins. Il est en train de se soulager. Voyez, et donc David, et Saül est occupé à cela, et David va arriver tout doucement, et puis je ne sais pas s'il y avait un ciseau, un poignard ou autre, et il va couper un pan de son vêtement, un morceau de son vêtement. Et puis, bien sûr, il ne va pas attenter à ses jours. Hein. Il dira à ceux qui l'accompagnaient que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui. Il est loin de l'Éternel. Je rappelle que Saül voulait le raccourcir. Il voulait le percuter avec sa lance, il voulait le faire mourir. David avait des promesses, celles de parvenir à la royauté. Et là, c'est Saül qui était en place. Saül qui, finalement, eh bien, avait fait des choses contraires à la volonté de Dieu et qui s'était disqualifié, bien sûr. Alors, une seconde fois, Saül campe sur la colline d'Aquila. C'est la nuit, il dort profondément, toute son armée, elle aussi, dort, même les gardes. Et voilà que David va se glisser dans le camp, hein, le camp de Saül, jusqu'à lui. Il va lui prendre sa lance, sa cruche, et il ne va pas toucher à sa vie. Pourtant, il était vraiment à sa merci, il dormait. Il y en a qui auraient fini à la carotide, on se vide vite. Hein. Voilà. En tout cas, une seconde fois, David ne fait rien, ne touche pas à sa vie. Il va l'épargner une seconde fois alors qu'il aurait pu le faire. Et voilà la réaction des compagnons de David. Hein, ils vont lui dire à ce propos, au propos de ces deux circonstances, que Dieu lui-même avait fourni l'occasion à David de se venger et qu'il ne l'avait pas fait. Eux l'auraient fait. Eux l'auraient fait. Alors contrairement à eux, eh bien David, lui, il avait ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Cette sensibilité aux choses de Dieu. C'est ce qui fait que, quelque part, quand on a cette sensibilité, cette intelligence, on ne se trompe pas. On accomplit pleinement la volonté de Dieu. Saül avait été oint par Dieu, et David, eh bien, savait qu'on ne touche pas, on n'égratigne même pas loin de l'Éternel. Et on ne touche pas impunément aux choses de Dieu. Voyez un petit peu le respect, la crainte qu'avait David vis-à-vis des choses de Dieu. Alors c'est pour cela qu'il n'a jamais touché à Saül, et sa droiture et sa loyauté, eh bien ça plaisait à l'Éternel. Ça plaisait à Dieu. Amen. David savait également qu'un jour, où Dieu le voudrait, eh bien il se chargerait lui-même de Saül. Parce que c'est lui finalement qui l'avait élevé, et c'est lui qui lui avait donné tout simplement eh bien, des choses que le commun des mortels ne possédait pas. Il a été un homme de Dieu formidable au départ, et il s'est ensuite eh bien, petit à petit eh bien, éloigné de la volonté de Dieu. Il a abandonné complètement les voies de l'Éternel. Et effectivement, eh bien, Saül va mourir au cours d'une bataille, 1 Samuel 31, verset 1er. Les Philistins livrèrent bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab, Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer, me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas. Alors, parce qu'il était saisi de crainte, bien sûr. Saül prit son épée et se jeta dessus. Et celui qui portait ses armes, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Alors à cette occasion, parce que c'était quand même particulier, voilà qu'il était débarrassé de celui qui voulait le faire mourir, de celui qui avait attenté à sa vie plusieurs fois, celui qui justement, quelque part, l'avait maudit. À cette occasion, David va montrer d'abord une grande humilité. Une grande humilité. Il va composer un cantique funèbre qu'il fera même enseigner aux enfants. Vous le trouverez dans 2 Samuel, chapitre 1er, versets 17 à 27. Voici quelques phrases. Au verset 23, il dit « Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie. » Au verset 24, « Filles d'Israël, pleurez sur Saül. » Au verset 27, « Comment ?» Comment des héros sont-ils tombés? Et je pense qu'il avait un gros chagrin et une grande souffrance intérieure parce qu'il était tout entier. Ce n'était pas un homme à moitié, vous voyez, un petit peu. Devant la dépouille de son implacable ennemi, voilà que David exprime sa douleur. Il est sincère. Il montre là une grande qualité de cœur. Autrefois, il avait gémi face aux accusations injustes, face à la haine tout simplement de Saül. Mais là, maintenant, tout est oublié. Il ne regarde qu'une chose, c'est l'intérêt du royaume de Dieu, l'intérêt du royaume d'Israël, l'intérêt tout simplement des choses de Dieu. Aucun reproche ne sort de sa bouche, justement contre celui, c'est le moment de pouvoir l'écraser, de pouvoir l'écrabouiller, il n'y a pas de défense là, contre celui qui l'a fait souffrir, contre celui qui a retardé son accession au trône d'Israël. Et voilà que ce cantique exprime le respect, la douleur, au sujet de celui qui l'avait persécuté, tout simplement. Et là, je me dis, mais quel amour! Quel amour! Parce que ça devait se sentir. Vous savez, ça se sent quand quelqu'un est sincère. Des fois, on est sincère dans la colère. Hein. Et ça, on le sait aussi, on le sent. Hein. Mais là, c'était dans l'amour qui émanait du cœur de David. Hein. Finalement, c'est le même amour que Dieu exprime à notre égard. Dieu nous aime. Qui que tu sois, engagé ou pas, dans la découverte des choses de Dieu, sache que Dieu t'aime. Que Dieu a un amour particulier pour toi. Tu veux dire, peut-être que Dieu a de l'amour pour ta femme, oui, Dieu a de l'amour pour ta femme, mais il a de l'amour pour toi. Un amour particulier pour toi. Il te connaît mieux que tu ne te connais. Amen. Alors maintenant, David va pouvoir monter sur le trône d'Israël, mais je dirais qu'il a le triomphe modeste. Il est rempli d'humilité. Le peuple d'Israël, c'est une charge, croyez-moi. Eh oui, si vous connaissez un peu l'histoire biblique, vous savez de quoi je veux parler. C'était particulier, on l'appelle le peuple Coured. Un peuple rebelle. Tu lui dis, va à droite, il va à gauche. Parce que justement, tu as dit, va à droite. Vous voyez un petit peu, ça nous ressemble à nous, Français, hein ? Non ? Dès qu'une loi sort, on cherche la faille dans la loi pour pouvoir la contourner, pour pouvoir la faire sienne, c'est-à-dire en tirer bénéfice. Ça, c'est le propre du français. Hein. Peinture fraîche, ne touche pas. Première chose qu'on fait. Eh oui. Et puis après, on dit, mais c'est la peinture. Ben oui, on t'avait dit de ne pas toucher, de ne pas venir t'asseoir là. De rester à l'écart. Eh oui. Alors, quand je dis qu'il a le triomphe modeste, il est rempli d'humilité, David était aussi, je dirais, un homme fidèle. Un homme de parole. Un homme qui n'oubliait pas ses amis, ses alliances, ses engagements. Dites-moi, petit examen de conscience, est-ce que vous tenez toujours parole ? Vous tenez toujours parole ? Si Pierre avait tenu parole, « Seigneur, s'il faut aller à la mort, j'irai avec toi !» Puis quand ça a été le moment, Pierre, il se tenait à distance. Hein ? Et quand on lui a dit, « Mais toi aussi, tu fais partie du groupe, là ? Tu étais avec Jésus ? Ah, oh, je ne connais pas, moi !» Vous regardez un petit peu ? Pourtant, c'est Pierre. On l'appelle Saint-Pierre. Hein ? Eh ouais ! Ben oui ! Eh bien, il n'a pas tenu parole. Il s'est même écrasé devant une servante. Il a fait le petit, là. Hein ? Il a joué au canard. Voilà. Alors, un jour, David va poser cette question. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Alors, on sait une chose, c'est qu'après la mort de Saül, tout a été dispersé. Tout a été dispersé. Hein, il ne restait pas grand-chose de sa famille, mais voilà que tout a été dispersé, ses biens, etc., ses terres, enfin, toutes ses richesses. Voilà. Alors, David pose cette question, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül ? Il faut que je lui fasse du bien, parce que moi j'ai fait une promesse. Et on va parler de la promesse. De quelle manière ça s'est produit ? Hein ? Alors, il restait encore un fils de Jonathan. Un fils perclus des pieds. Et son nom, c'est Mephibosheth. La signification de Mephibosheth, c'est « détruisant la honte ». D'accord ? Quelque part, il y avait une sacrée honte sur la famille de Saül. Et Jonathan, qui lui, au contraire, était un homme droit, parce que Jonathan a sauvé plusieurs fois Saül, il l'a averti alors qu'une embuscade était tendue contre lui, il l'a averti, il n'a dit que Saül, de Jonathan aimait David comme son âme. Vous aimez votre âme ? Vous vous aimez ? Eh bien, c'est un peu pareil. Il aimait David comme il s'aimait. Amen. Alors, on le fit venir, donc je parle de Mephibosheth, on le fit venir devant David qui lui dit, ne crains point, parce que lui, ça y est, il se disait, bon, j'y vais, mais c'est fini pour moi. Hein. C'est fini, hein, il restait encore que moi. Mais voilà qu'il n'y a plus rien. Hein, voilà. Alors, il lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alors, qu'est-ce qui se passe ? David s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan, qu'il appelait son ami. Son ami. Jonathan était fils de Saül. Et Jonathan également était l'ami de David. Comme je l'ai dit, il l'aimait comme son âme. Un jour, alors qu'il sauve la vie de David, voilà qu'il se promet fidélité pour toujours. Et Jonathan avait dit à David, 1 Samuel, chapitre 20, verset 14, « Si je dois vivre encore, parce qu'il savait que David était promis à la royauté, et qu'un jour il pourrait faire tomber, hein, comme ça, les masques, et révéler un petit peu les choses. Il dit, si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. » Et au verset 15, « Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. » Et là, nous voyons une chose, c'est que David est en train de tenir parole. Et oui, il était vraiment un homme de parole, un homme fidèle à ses engagements. Il était vraiment un homme selon le cœur de Dieu, parce que ces choses s'appelaient à Dieu. Être fidèle. Tu as donné ta parole, tiens-la. Et c'est là qu'on dira, voilà quelqu'un de droit, voilà quelqu'un de fidèle, voilà quelqu'un que Dieu doit aimer. Amen. Imaginez que Dieu n'ait pas tenu parole. Hein? Bon. Alors néanmoins, souvenons-nous que David n'était pas parfait. David n'était pas parfait. Un jour, alors qu'il n'était pas sur ses gardes, d'abord il aurait dû être au combat avec ses hommes, avec son armée. Il a préféré rester à la maison, prendre un peu de repos, du recul. Il n'est pas sur ses gardes, il est quelque peu relâché. Et puis c'est la chute, c'est le péché, la catastrophe. La catastrophe. Après l'adultère avec Bathsheba, il ira jusqu'au meurtre d'Uri, parce que c'est un meurtre. L'envoyer au front, première ligne, et dire aux autres, retirez-vous tous. C'était bien prémédité. Il n'y avait pas de circonstances atténuantes à l'égard de David. Ah non, pas du tout. Hein, devant un tribunal, lui aussi aurait été condamné à mort. Hein. En tout cas, voilà, le mari de Bathsheba, va mourir sur le front. Paradoxalement, malgré ce qui vient d'être dit là, je dirais, là encore, David va démontrer qu'il était un homme vraiment selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il sera mis devant la réalité, un petit moment, il a cherché, vous savez, à enjoliver les choses, voilà. Mais quand il est mis devant la réalité, quand Nathan va lui dire, c'est le prophète Nathan qui était envoyé par Dieu, va lui dire, voilà David, hein, tu sais, un homme avait une brebis, une seule, il a choyé, il en prenait soin, et il l'a gardée, il voulait la préserver de tout incident, voilà. Et puis, il est arrivé un homme et il lui a pris sa brebis. Et la colère de David, là, elle est montée d'un coup, et il s'est pris au piège tout seul, hein. Il dit, mais un homme doit rendre 4 brebis pour celle qu'il a pris à l'autre. Et il dit, David, tu es cet homme. Vous voyez un petit peu les doigts là qui reviennent vers moi. David, tu es cet homme. Oh, la douche froide. Un coup de massue, ça n'aurait pas été pire. Parce que c'est ce qui se passe. Il comprend, il réalise. Et devant la réalité des choses, dites par Nathan, ce que Dieu a envoyé vers lui, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, parce que Dieu voulait le récupérer. Si Dieu n'avait pas voulu le récupérer, il l'aurait laissé dans sa misère, se noyer de plus en plus. Tu as menti une fois, tu vas mentir deux fois. Tu as commis un meurtre, tu vas en commettre deux, trois, quatre, et puis on ne veut pas s'arrêter, hein, parce que c'est comme ça. Non, non, Dieu envoie son prophète, un homme de Dieu, qui lui parle, et David comprend, il saisit et il s'humilie. Et voyez un petit peu la réaction. David va agir avec vérité, j'ai noté ceci. Il va déverser son cœur en parole. Psaume 51, verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Voyez-vous qu'elles disparaissent. Parce que, vous savez, mine de rien, quand on fait quelque chose de mal, quand on manque, quand on triche, quand on tue, quand on vole ou autre, c'est là. Des fois, on se réveille avec. Où on est réveillé parce que la culpabilité est là. Alors il dit, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen. Vous savez, je ne sais pas ce que vous avez pu faire, mais il est bon de revenir vers Dieu. Nous avons la croix où nous pouvons venir et nous humilier devant Dieu. Demander au Seigneur Jésus, celui qui a payé pour nous, eh bien, de nous purifier. Amen. Son sang a coulé afin que nos péchés soient purifiés, que nous soyons lavés. Amen. Mais il faut venir au pied de la croix. Dire, Seigneur, je me suis planté. Et j'ai beau vouloir faire partir ces choses de mon esprit, elles sont toujours là. Je n'ai même plus regardé telle personne. Oh, j'ai honte de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit, je ne sais pas. Mais Seigneur, lave-moi. Je demande pardon. Ce qu'il a compris, David. Il a dit, j'ai péché. Il ne dit pas, c'est la faute, hein? Non. J'ai péché. Meurtre, adultère. Le fruit est là. Même s'il va mourir. Mais le fruit est là. Vous savez, le fruit que l'on moissonne avec le péché, il est souvent très amer. Il ne nous apporte rien d'abord, rien de bon, sinon des tracas supplémentaires, la difficulté. Alors que le fruit qui émane du royaume de Dieu, du Seigneur Jésus, le fruit de l'Esprit, amen, baptême de l'Esprit, fruit de l'Esprit, c'est différent. Le baptême, il se reçoit en réponse à la foi. Si tu crois, tu verras, tu recevras. Et puis le fruit de l'esprit, eh bien, vous avez un jardin, vous avez peut-être un pot de fleurs, vous venez gratter un peu la terre, vous venez arroser, vous mettez un petit peu d'engrais, vous entretenez. Eh bien, c'est ça. Le jardin, il faut l'entretenir. Il faut y travailler. Et puis les fruits viennent. Amen. J'ai mauvais caractère, eh bien je vais travailler sur mon caractère, Seigneur. J'ai besoin que tu fasses tomber toutes ces choses mauvaises, cette réaction que j'ai à chaque fois que on me dit des vérités. Il faut les accepter. D'abord, il faut commencer à les accepter et à dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que finalement, quand on ne supporte pas ce qu'on nous dit la vérité, eh bien, vous savez ce qui se passe? Voilà, regardez, on fait le vide autour de soi. Oh, puis il n'y a plus personne. Comment ça se fait? Eh bien oui, mais à force de faire le vide, il n'y aura plus personne, du tout. Tu seras seul. Alors que le Seigneur Jésus, au contraire, il veut nous unir, nous réunir. Amen. Parce que quand on est unis, quand on est réunis, on est une force. Alléluia. On est une force. Le Seigneur est avec nous. Parce que c'est dans sa volonté. Amen. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Alors, je reviens à David, parce que je ne veux pas trop m'en éloigner, parce que c'est lui le personnage le plus important dans l'histoire là. Il s'était trompé. Il avait failli. Mais, heureusement, il est honnête. Il ne se cherche pas d'excuses, il ne reproche rien à personne, il est responsable de sa situation, il le reconnaît, il s'humilie devant Dieu, et il se repent de son péché. Et vous savez ce qui se passe? C'est que Dieu le relève, Dieu le réhabilite, et Dieu l'utilise, parce que quand même il va devenir le leader d'Israël, le roi en Israël, l'homme le plus haut. Pas n'importe qui, malgré qu'il se soit, excusez-moi, planté, lamentablement planté. Eh oui. Alors, l'Écriture dit que David a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, sauf dans l'affaire de Uri le Hittien. Comme on dit, c'est l'affaire sombre de sa vie. Quelquefois, on dit aux gens, lui, il trimballe des casseroles. Eh bien, c'était la casserole de David, affaire de Uri et de Bathsheba, bien sûr. Hein. En 2 Samuel, chapitre 23, ne cherche pas, je ne t'ai pas donné, David arrive à la fin de sa vie et il fait la liste des vaillants hommes qui ont combattu avec lui. Ce sont tous des héros, aux yeux de David, mais également aux yeux d'Israël. Et là, on arrive au verset 39, et nous découvrons le nom de Uri le Hétien. Et Dieu mentionne dans cette liste cet homme. Et lorsqu'il consultait cette liste, le 37e nom, le dernier nom, c'était Uri. Eh oui. Pourquoi? Des fois, on dit, c'est un pasteur qui me disait, un collègue, avec qui j'ai fait ma formation, il me dit, tu sais, je me suis planté dans telle histoire, alors lamentablement, je ne veux plus. Alors, tu sais ce que je fais? Bon, il n'y avait pas des Kleenex, hein. Je nous mets une marque. Oh! Il n'avait pas de mouchoir papier. Voilà. Il avait des mouchoirs, donc, en tissu. Il disait, eh bien, pour m'en souvenir, à mon mouchoir, j'ai fait un nœud. Je touche mon mouchoir. Ah! Oui, souviens-toi. Vous voyez un petit peu? Bon, c'était un repère pour lui. C'était une façon de dire, il faut que je m'en souvienne. Je ne veux plus recommencer. Je me suis planté. Je me suis repenti. Dieu m'a pardonné. Mais maintenant, il faut que je passe à autre chose. Mais là, David, lui, voulait s'en souvenir. Parce qu'il y avait là un témoignage contre lui. Eh oui. Il voulait se souvenir de ce que le désir de la chair avait provoqué au départ. Qu'est-ce que c'est? Une simple convoitise, la convoitise du regard. Il voit cette belle femme là-bas en train de se laver ou je ne sais pas trop quoi. Et puis ça va être suivi de moments terribles, de honte, puis la condamnation. Tout aurait pu s'arrêter là. Tout aurait pu s'arrêter là. Eh oui. Mais heureusement qu'il y a eu aussi la grâce et le pardon de Dieu. Amen. Combien de fois Dieu aurait eu l'occasion de dire, allez, c'est bon, ça s'arrête là. Pour nous, je parle, hein. Pour moi. Vous pouvez faire pareil pour vous, hein. Ça aurait pu s'arrêter là. Tu t'es planté lamentablement, tu as fait souffrir et tu fais encore souffrir. Et ça va rester une marque dans ta vie. Vous comprenez? Eh oui. Alors il y a le pardon de Dieu. Ça, c'est la grâce, l'amour. Pour lui, ça aurait été facile d'effacer Uri de sa liste. Ça aurait été facile qu'il lui aurait fait des reproches sur le roi. Il est au-dessus de tout. Et le premier qui m'avait fait un reproche, paf! Ben oui, il était roi. Qui aurait pu l'empêcher? Non, non. Mais David était profondément honnête. Honnête avec lui-même, avec son entourage et avec Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. Vous le comprenez pourquoi? Avec ce qu'on vient de dire, de voir ensemble, bien sûr. Il n'était pas parfait, mais il était un homme selon le cœur de Dieu. Alors, j'ai dit que j'allais faire un appel. Parce que je ne sais pas si vous le savez, nous sommes donc le 19 avril 2026, et Dieu cherche encore des hommes et des femmes selon son cœur. Qui aimerait être appelé par Dieu? Voilà, un homme, une femme, selon mon cœur. Mais levez-vous, restez pas assis là. On ne voit pas, on ne voit qu'une main. On dit, ah, qui c'est? Non, non, là au moins on sait. Qui a envie d'être appelé un homme, une femme, selon le cœur de Dieu? C'est important, ça vous engage. Ça vous engage, vous avez entendu. Il y a une histoire de caractère, une histoire de vérité, une histoire d'honnêteté, une histoire d'amour. Ça vous engage. Si quelqu'un veut te marcher sur le pied en sortant, ne lui crie pas après. Mais presque excuse-toi d'avoir glissé ton pied sous le sien. Mais oui, ça m'est arrivé d'avoir raison, mais de m'écraser pour un temps. Et ensuite la personne l'a reconnu. C'est plus facile quand c'est comme ça que quand on s'est crié après, chipoté, crêpé le chignon, comme on dit. Voilà. Vous êtes debout. Dieu vous voit. Il vous entend. Il sait ce qu'il y a dans votre cœur, ce désir qui est là. J'aimerais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces exemples. Merci parce que, Seigneur, tu ne cesses de nous interpeller pour, Seigneur, nous accorder tout simplement ta bonté. Tu es celui, Seigneur, qui nous donne bien au-delà de ce que nous sommes capables de saisir, de comprendre, d'appréhender. C'est toi également qui nous donne l'intelligence des choses les meilleures pour nous. Parce que non seulement nous serons profitables, mais nous serons profitables, Seigneur, à ton œuvre ici-bas. Je te demande peut-être de réparer dans la vie de quelqu'un ce matin et d'aider à réparer également le mal qui a été fait, Seigneur, à pardonner peut-être, d'aider à aimer, Seigneur, même quelqu'un qui n'est pas aimable. Seigneur, de supporter tout simplement la souffrance avec silence, Seigneur, mais également animé de tes sentiments à toi. Je te demande de le faire, Seigneur, au nom de Jésus. C'est ton Église qui se lève ce matin. C'est ton peuple qui est debout tout simplement pour justement faire ta volonté et devenir un homme, une femme selon ton cœur, Seigneur. Merci d'avance pour ce que tu vas faire, parce que tu as commencé une œuvre. S'il y a eu ces décisions de se lever, Seigneur, c'est que tu es déjà à l'œuvre. Alors mon âme te bénit, mon cœur t'adore, Seigneur. Et je te bénis pour ton Église, pour ton peuple, pour chacun d'entre eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen.